Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Endurance 30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nico Martin, donc Nicolas, qui est à la fois athlète en trail running et entraîneur, mais le mieux, c'est qu'il se présente lui-même. Nico, je te laisse faire.
Salut Nico, salut à tous. Bah, Nicolas Martin, 38 ans cette année 2024, donc les années passent. Je suis athlète de trail running, on va dire... amateur sérieux, puis athlète semi-professionnel depuis 2010 et plus précisément semi-pro, on va dire, depuis la fin de l'année 2015. Donc voilà, j'ai été une période où j'étais vraiment semi-pro et puis j'avais quelques activités hivernales pour, on va dire, un peu payer les factures. Et puis à partir de 2018-2019, j'ai plus lancé une activité de coaching par passion au début sur quelques personnes qui me demandaient, puis ça a un petit peu grossi pour préparer aussi l'après, puisque les années passent et puis que la fin de carrière va arriver. Donc voilà, ça fait quelques années que je suis dans ce milieu du trail running avec quelques résultats internationaux, dont deux médailles d'argent au championnat du monde en 2016 et 2022. Et puis actuellement, des athlètes que j'accompagne uniquement en suivi à distance de tout niveau, puisque ça peut aller d'un champion d'Europe de course en montagne, alors que je suis un peu plus en consulting, Sylvain Cachard, et puis des athlètes qui sont plutôt avec des objectifs de finir leur course sur des ultras notamment.
Ok. Et la petite parenthèse en faisant quelques recherches quand même, c'est que tu viens du foot à la base.
Tout à fait, j'ai joué au foot. Bon, je pense comme beaucoup de gamins, moi je viens du Trièves, c'est une petite région de moyenne montagne dans le sud-Isère, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'activités sportives, et c'est vrai que le foot ou le rugby, c'était un peu les deux clubs qui existaient. Moi j'ai fait du foot jusqu'à 15 ans, puis j'ai arrêté parce que j'avais une autre passion pour la chasse aux chiens courants avec mon papa, et c'était pas très compatible. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai arrêté le foot, que je me suis mis à courir avant tout, et au début, pendant 6, 7, 8 ans, j'ai couru sans vrai objectif de compétition, même si j'ai fait quelques compétitions, avant tout parce que c'était un sport qui, pour moi, symbolise la liberté. Il faut une paire de baskets, un short et un t-shirt, et puis tu vas courir n'importe où, n'importe quand. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré dans la course à pied, c'est cette simplicité, quoi.
Ok. Et de toute façon, je pense que c'est un peu les mêmes profils. Hein, quand on a des petits bleds en montagne, en gros, l'été, tu peux jouer au foot et l'hiver, tu peux skier s'il y a de la neige ou pas faire grand-chose d'autre. Donc, mais je suis content de recevoir des footeux. Moi, je suis passionné de foot et je suis entraîneur aussi de foot dans mon village. Et je trouve, pour la petite parenthèse, il y a trop souvent une opposition de style entre les sports individuels qui seraient parfaits et le foot où c'est une bande de décérébrés. Ce qui n'est pas vrai, hein, par exemple, justement. Donc, je suis toujours content de recevoir des footeux. Dis-moi.
Un sport avec beaucoup de qualités athlétiques, hein, mine de rien. C'est pas rare de voir des très bons sportifs dans des sports individuels qui viennent du foot, parce qu'il y a vraiment tous les types de qualités selon les postes et tout. Et c'est, je pense que c'est un sport dans le jeune âge aussi qui développe des qualités motrices qui, on le sait aujourd'hui avec les différentes études, sont importants, et qu'on sait que la spécialisation, elle n'est pas forcément souhaitable chez le jeune athlète, quoi.
Ouais, c'est juste l'exemple le plus marquant, je trouve en tout cas, c'est la génération de marathoniens français, avec mes 10 frères en tête de file, entre autres, mais qui ont tous fait du foot jusqu'à 15 ans, un peu comme toi. Et c'est important ce que tu dis, parce que l'hyperspécialisation trop tôt, c'est sûr que c'est pas l'idée du siècle, et un sport co, notamment le foot maintenant, où il y a des qualités de motricité, où il y a finalement une certaine forme d'endurance, de vitesse, de répétition d'efforts, c'est des choses qui sont intéressantes, et de plus en plus maintenant,
Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne tendance. Et comme tu dis, c'est prouvé dans les études depuis un sacré moment que l'hyperspécialisation avant les 12 ans, par exemple, c'est rarement une bonne idée. Et je suis content que tu... Je te posais juste la question pour chambrer par rapport au foot, mais je suis content que tu aies rebondi là-dessus, en tout cas.
Ah non, mais moi, je suis favorable à ce que les jeunes athlètes pratiquent le plus d'activités possible, parce qu'on sait quand même à l'adolescence, à la préadolescence, ce qui compte, c'est avant tout de bouger. C'est ça qui construit l'athlète dans le futur. Mais je pense que l'activité a très peu de prise sur ce qu'il pourra faire plus tard. Alors, bien sûr, si on parle d'un sport peut-être un peu plus technique que le trail, comme le cyclisme, c'est sûr que si tu arrives dans un peloton à 20 ans, ça va être compliqué. Mais par contre, faire peut-être du cyclisme et faire d'autres choses en parallèle quand t'es jeune, c'est hyper intéressant et on s'en rend compte, même si bien sûr, on voit par exemple dans le vélo de plus en plus des coureurs à 20, 21 ans qui sont au top niveau mondial. Il faut pas oublier aussi que le risque, c'est de dégoûter aussi le jeune athlète. Et on sait que moi, je pense que ce qui est important, c'est de donner avant tout le goût de bouger aux enfants, et qu'une fois qu'ils ont ce goût-là, je pense qu'ils bougeront toute leur vie. Et puis s'ils ont envie de faire du sport de haut niveau, de la performance, s'ils ont les prédispositions, ils en feront. Mais je pense que c'est jamais non plus l'objectif principal, la performance. Ça doit être un objectif secondaire qui vient avec le temps, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Bon, après, on va pas se mentir, c'est sûrement plus facile de faire une carrière de haut niveau en course à pied en ayant débuté par le foot que de débuter par la course à pied et de se mettre au foot à 20 ans. Mais cette parenthèse est en fait, je salue le Football Club au Jura au passage, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, la petite question fil rouge, ta définition de l'endurance en quelques mots, ça serait quoi pour toi ?
Pour moi, l'endurance, c'est on va faire un peu la définition classique, mais c'est aller le plus vite possible sur une durée ou une distance définie. C'est pas que des efforts longs, il y a de l'endurance dans tout type d'effort. Je dirais même qu'il y a de l'endurance dans du sprint, puisqu'il y a comment tu vas maintenir ta vitesse. Donc moi, je vois vraiment l'endurance comme comment on améliore la capacité à tenir l'allure entre guillemets spécifique de la pratique qu'on souhaite faire, quoi.
Ok, c'est une définition qui est claire, concise et précise, et ça va nous amener à la discussion du jour. On va parler volume horaire, volume d'entraînement. On va beaucoup tourner autour de ça, parce que j'ai cru comprendre et je te rejoins que tu es un adepte du volume d'entraînement. Et pour commencer, justement, toi, ça fait un moment que tu es dans le business au sens large, hein, du trail. Et sur les 10 dernières années, un petit peu, est-ce que l'entraînement de ce point de vue-là a évolué ? C'est-à-dire que je reprécise ma question. Est-ce que maintenant, les trailers, on va parler des élites pour le moment, par exemple, s'entraînent plus maintenant qu'il y a 10 ans, par exemple ?
Je pense que oui. Alors après, je dirais que c'est une évolution qui est plutôt liée à la professionnalisation ou à la semi-professionnalisation de l'activité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les athlètes s'entraînent plus que ce que faisait par exemple Kylian Jornet au début des années 2010, qui lui a tout de suite été professionnel. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'athlètes qui vivent peut-être pas à 100% du trail, mais qui en tout cas ont des activités qui sont aménagées, des activités professionnelles qui sont aménagées pour pouvoir avoir un volume d'entraînement qui est conséquent. Mais aujourd'hui, dans un sport où quand même on court, hein, donc c'est quand même des sports traumatiques, voir des 850, 900, 1000, voire plus, 1100 heures d'entraînement, je ne vais pas dire que c'est courant, mais c'est quand même régulier chez les meilleurs athlètes mondiaux, notamment dans l'ultra, quoi.
Ça se fait, donc, si je résume, aussi parce qu'il y a plus de possibilités, il y a plus de gens qui ont la possibilité de le faire maintenant qu'il y a plusieurs années en arrière, en fait, finalement.
Ouais, complètement. Je pense que, en étant très généraliste, quand même, si tu as une activité professionnelle, dépasser les 12-15 heures d'entraînement semaine, moi, c'est ce que j'ai fait. Je faisais autour de 12 heures semaine quand j'avais une activité professionnelle à temps plein. C'est quand même compliqué. Puis, alors oui, je suis un adepte du volume. Après, je suis avant tout un adepte de, si on voulait simplifier, de faire le plus de charges possible qui est assimilable par l'athlète. Et ça, c'est quand même très dépendant de tous les à côté de l'athlète, quoi. Un athlète professionnel, entre guillemets, alors on ne va pas dire qu'il n'a pas d'à côté, mais c'est quand même son métier, entre guillemets, d'être athlète professionnel. Donc, il a, il a quand même une grande capacité à faire du volume. Chez quelqu'un qui a une activité pro, faut aussi se dire qu'on ne peut pas en juste empiler des heures si derrière les plages de récupération ne sont pas suffisantes, ça sera contre-productif. Donc, clairement, le milieu dans lequel on évolue, et notamment le fait que les gens aient plus de disponibilité, influence la manière dont on s'entraîne. Il y avait une étude, je ne sais pas si tu l'avais vue, qui avait été faite sur les trailers et sur les marathoniens élites. Ouais. Avec les comparaisons de volume, j'ai plus en tête les chiffres exacts, mais on était sur du 600, 650 heures de moyenne chez les trailers. Bon, bah, ça, c'est des chiffres qui avaient été faits de mémoire, si je dis pas de bêtises, 2017 ou 2018. Je pense qu'aujourd'hui, si tu reprenais les athlètes en équipe de France et que tu refaisais ça, ça a quand même bien augmenté, quoi. Parce que à l'époque, il y avait quasiment personne qui était pro ou semi-pro. Je pense que j'étais quasiment le seul. Alors qu'aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui arrivent en équipe de France et qui sont semi-professionnels, des vrais professionnels. Il n'y en a pas énormément en France qui viennent en équipe de France notamment. Mais voilà, c'est une évolution qui est quand même très liée au milieu dans lequel, dans l'évolution du trail qui se professionnalise petit à petit.
Oui, et c'est vrai. En plus de ça, le trail est une discipline assez jeune finalement, et donc qui évolue aussi très vite pour beaucoup, beaucoup de raisons. Et c'est pour ça que ce qui était peut-être valable, en tout cas sur le nombre de personnes il y a quelques années, est moins valable maintenant par rapport à ce genre d'études-là. Et je suis raccord avec ce que tu dis sur faire le plus possible qu'on est capable de tolérer. Et d'ailleurs, l'idée du podcast est venue parce que tu avais partagé en story l'intro de mon bouquin où c'est ma position en fait. Pour moi, il faut faire le plus possible dans la mesure de ce qui est tolérable justement.
Voilà, complètement, c'est ça. Alors après, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qui est le maximum tolérable par l'athlète. Ça, c'est pas simple à définir. Mais ce qui est sûr en fait, c'est que je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu cette vision parce que sinon, on est toujours dans une vision qui est conservatrice. Et pour moi, les capacités d'adaptation et de tolérance à la charge d'entraînement, c'est quelque chose qui se construit au fil de la carrière d'un athlète. Et que si tu es tout le temps dans le court terme à toujours être trop sécure, on va dire, à pas prendre de risques, ben ok, tu vas jamais prendre de risques, tu n'auras jamais un athlète qui est peut-être dans des phases de surcharge un peu transitoire. Mais d'un autre côté, peut-être qu'au bout de 10 ans, il n'aura pas tellement développé des capacités supérieures à celles qu'il avait à 20-22 ans. Et moi, l'une des visions que j'ai sur est-ce que l'entraînement d'un athlète a été bon, c'est quelle a été l'évolution de son niveau de performance entre 20 et 30 ans, par exemple. Tu vois. Théoriquement, si tu t'entraînes relativement bien, alors sauf s'il y a eu une hyperspécialisation très jeune, mais on sait qu'il faut entre, on va dire, 7 et 10 ans pour atteindre son summum. Bon, bah, quelqu'un qui va commencer à s'entraîner un peu sérieusement vers 18-19 ans, normalement, son pic de forme, il va être entre 26 et 30 ans, quoi. Et si à 20-22 ans, il a des niveaux de performance qu'il n'arrive pas à dépasser dans la décennie qui suit, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui a pas forcément été bien fait. Alors après, il n'y a pas que l'entraînement, il y a la mentalité, il y a les envies de l'athlète, mais moi, j'ai quand même cette vision-là aussi d'avoir une vision où on n'est pas que dans le court terme, mais aussi dans le moyen et le long terme et d'essayer de développer des capacités pour l'athlète, mais quitte à des fois le mettre un petit peu en surcharge pour qu'à un moment donné, il soit capable de tolérer ce qui peut-être lui permettra d'atteindre son excellence personnelle.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai que quand tu entraînes et quand tu pratiques, peu importe à des niveaux différents, des fois, tu essayes des trucs et tu es surpris de comment les gens arrivent à réagir et à l'assimiler. Je pense qu'on a les deux ou les gens qui nous écoutent toujours des choses en tête. Ou finalement, par exemple, je ne sais pas si tu as le cas, mais moi, j'ai des gens, ils font, par certains mois, ils font, j'en sais rien, 10 ou 20% de plus que ce qui est programmé. Et ça passe en fait. Je ne sais pas si ça passerait tout le temps, mais c'est quand même surprenant. C'est dur de prédire exactement quelle charge de travail est assimilable. Et c'est beaucoup un jeu d'essai-erreur, je trouve.
Ah bah, complètement. Et puis, je pense qu'il y a ces notions de progressivité. Bon, moi, c'est ce que j'observe. Après, ce n'est pas forcément corroboré par la science. Mais je pense que c'est vrai quand même quand tu débutes et quand tu es sur des volumes relativement faibles. Après, une fois que tu es chez des gens qui sont capables de tolérer des volumes importants, je pense que la variation du volume ou de la charge sur un temps court, elle n'est pas forcément problématique parce qu'on est quand même chez des gens qui sont capables de tolérer des charges qui sont importantes et que finalement, bon, bah, je ne sais pas s'ils courent en moyenne 90 km semaine avec des sports croisés à côté. Hein, si tu leur mets une semaine à 130, 140 km, ce qui représente une énorme augmentation de la charge quand même en volume kilométrique, ça passe. Après, c'est sûr que si tu fais ça pendant 5, 6 semaines de suite, ça pourrait poser des problématiques. Mais si, moi, j'ai un peu cette vision-là, souvent quand on parle d'athlètes un peu de haut niveau qui reviennent de blessures, j'ai vraiment ce contrôle de la charge dans un premier temps, entre guillemets, quand on est entre la réathlétisation et l'entraînement. Et petit à petit, quand on arrive, alors ça dépend des athlètes, mais entre 80 et 100 km semaine, avec un dénivelé qui est quand même souvent conséquent chez des athlètes de trail, on va être, quand on fait ce kilométrage-là, on va être sur du entre 3 et 5-6 000 mètres selon l'endroit où les gens s'entraînent. Bah, je pense que là, on peut se permettre de dire, tiens, là, on fait une semaine un peu plus de charge, un peu un bloc spécifique, par exemple, et on peut aller chercher un volume plus important sans que ça présente trop de risques, quoi. Après, c'est vraiment le fait d'accumuler qui présente du risque. Et globalement, dans l'entraînement, c'est quand même toujours l'accumulation qui pose problème plus qu'une charge aiguë qui, à mon sens, sauf si c'est traumatique, mais posera rarement des réels problèmes.
C'est intéressant hein, comme réflexion. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas exposable sur les réseaux. On peut pas faire une belle courbe de progression linéaire, mais ça, c'est autre chose. T'as un peu débordé, enfin t'as pas débordé, mais on y reviendra sur ça, parce que j'avais une question justement par rapport à la sortie longue. Mais avant, pour parler de volume, j'aimerais avoir ton avis un peu sur l'option qui est de courir moins pour courir mieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une tendance qui est là-dedans, avec les sports croisés, le renforcement musculaire, ou courir un petit peu moins dans la semaine. Et l'interrogation, en tout cas, que moi j'ai par rapport à ça, je vais prendre le cas d'un marathon, par exemple, justement, les meilleurs marathoniens mondiaux, ils ont des volumes qui sont énormes, on ne va pas se mentir, hein, des volumes d'entraînement kilométriques pour une épreuve qui dure 2 heures, qui sont des volumes qui sont beaucoup spécifiques, même s'il y a du renforcement musculaire. Et si quelqu'un qui prépare une course de 2 heures, hein, dans son cas, a des volumes aussi élevés, est-ce que quelqu'un qui prépare des courses qui sont beaucoup plus longues que ça, est-ce que la philosophie ne serait pas de se dire qu'il faut avoir justement des volumes spécifiques qui sont le plus élevés possible?
Alors, je dirais oui, en partie. Ouais. Moi, j'observe sur l'ultra notamment, c'est que globalement, quand même, aujourd'hui, sur la course phare, on va dire, l'UTMB, on voit quand même pas grand monde qui arrive à réussir avec cette vision de sport un peu croisé, c'est-à-dire je me contenterai de courir 80 km semaine et je ferai, on va dire, une charge pour faire généraliste identique avec du sport croisé à côté. C'est quand même compliqué. Tous les coureurs qui sont devant, sur des périodes, en tout cas pas toute l'année, je l'évoquerai après, mais j'aime bien prendre cette manière d'imager, parce que c'est assez simpliste, c'est très simpliste, mais quand on fait des épreuves un peu longues, moi je pense qu'il faut être capable d'assimiler de manière hebdomadaire le volume de la course, c'est-à-dire tu prends un UTMB, ça fait 170-10 000. Ben, je pense qu'il faut être capable, dans sa période spécifique, d'assimiler de manière régulière ces semaines d'entraînement-là. C'est-à-dire à peu près ce volume et ce dénivelé-là. C'est assez généraliste, mais c'est quand même ce qu'on observe sur les meilleurs athlètes. Alors, je précise bien que là, on parle du haut niveau. Hein, ouais. Bien encore que quelqu'un qui compte faire l'UTMB autour de 40 heures, il va pas faire ça. C'est pas envisageable. Donc, c'est vrai que le moins courir pour mieux courir, il est quand même aussi à scinder entre guillemets entre ceux qui visent la performance et la haute performance et ceux qui ont plus des aspects finishers. Mais je dirais que si on doit limiter la course à pied, c'est pas parce que c'est bien de limiter la course à pied, c'est plutôt parce qu'on a affaire à des gens qui sont pas en capacité de tolérer plus de course à pied. Mais finalement, là, du coup, on n'est plus vraiment en train de parler de qu'est-ce qui est le mieux pour s'entraîner, mais on est en train de se dire ok, j'ai une personne qui n'est pas en mesure de faire ça, bah comment je trouve des parades pour l'entraîner. Mais globalement, si quelqu'un est capable de tolérer le volume nécessaire dans son activité spécifique, je pense que c'est toujours mieux de faire du spécifique. Alors après, ce qu'on peut débattre, c'est comment ça se répartit dans une année. Et ce qu'on observe dans nos sports, c'est que on a, je prends un exemple un peu, il y a eu Kylian Jornet, mais je vais prendre Germain Grangier, par exemple, sur son année 2023, qui a quasiment pas couru, je crois, jusqu'à fin avril, qui, ça, de mémoire, il a dû courir 3 semaines avant la Transvulcania, quelque chose comme ça, qui était début mai. Et après, il a fait un super été avec une victoire au 90 du Mont-Blanc et une troisième place à l'UTMB. Mais bon, ça, c'est aussi à modérer avec le fait qu'il a 7-8 années de saison trail derrière lui et que quand même, une fois que certaines adaptations sont en place, je pense qu'elles reviennent assez vite et que tu ne peux pas te permettre de faire ça avec n'importe qui quand même.
Ouais, je suis 100% raccord avec ça. Et ce que j'ai l'impression, en tout cas chez les élites, c'est que l'entraînement croisé, il est très périodisé. C'est-à-dire que l'hiver, il y en a beaucoup qui vont aller faire du ski de rando, en tout cas ceux qui sont en montagne. Et par contre, une fois que la saison est un peu lancée, ils font que de courir. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais si je résume schématiquement, c'est un peu ça, non ?
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai plus une approche, par exemple, un peu tout le temps avec des sports croisés, mais plus parce que moi, j'ai jamais trop aimé doubler à pied, quoi. C'était plus une volonté de ma part que de faire du sport croisé. Ça passe. Enfin, j'arrive beaucoup mieux à m'entraîner en termes de volume en faisant, par exemple, de la course à pied le matin et du vélo qu'en faisant que de la course à pied. Mais mon ressenti, alors ça, c'est mon expérience personnelle, c'est que j'ai toujours eu du mal à dépasser les 100 km quand même en compétition, quoi. Mmh. Et quelques fois où j'ai fait cette distance-là, j'étais complètement déglingué musculairement sur les fins de course, alors que j'ai plutôt normalement des qualités musculaires. Mais je pense que aussi au niveau biomécanique, il y a des adaptations qui peut-être doivent se faire pour que tu puisses courir pendant 150-160 km qui ne sont pas te gêner quand tu cours 70-80. Et je pense que la notion de spécificité, on a beau te parler d'entraînement polarisé et tout ce qu'on veut, que c'est ce qui est le mieux pour développer. Bon, déjà, c'est basé sur des études où les activités sont quand même plutôt des activités de haute intensité. Moi, je pense que la spécificité d'une activité, on peut pas passer outre. Et plus c'est long et plus quand même il y a une maîtrise de l'activité qui est compliquée à avoir et dont il faut s'entraîner spécifiquement à cette activité. Moi, je dis que la première chose pour performer, notamment en ultra, c'est que déjà, il faut voir la ligne d'arrivée. C'est un premier critère de performance qu'on va dire, on va pas faire ça sur de la course en montagne, sur du marathon. Normalement, un athlète de bon niveau, quand il prend le départ d'un marathon, il se demande pas s'il va arriver au bout du marathon. Il se demande si est-ce qu'il va faire tenir l'allure spé qu'il a travaillé, son objectif chronométrique. Alors que dans un ultra, même pour des top coureurs, bah, c'est pas non plus acquis de voir la ligne d'arrivée dès lors qu'il court sur des rythmes pour faire de la performance.
Ouais, c'est vrai. Hein. Et en plus de ça, justement, tu prenais le cas de Germain Grangier ou d'autres. C'est très intéressant ce que tu dis sur le passif qu'il a sur plusieurs années, sur la génétique aussi, hein, sur sa capacité à être bon déjà naturellement, en plus de l'entraînement. Et c'est pour ça que c'est aussi délicat de se dire les pros font ça. Donc, moi qui suis amateur, il faut que je fasse exactement la même chose parce qu'en fait, c'est très nuancé. Et ton cas, tu le résumes bien. Peut-être que si tu avais fait plus de séances doublées à pied ou plus de choses à pied, tu aurais peut-être eu moins de difficultés sur du long. Mais à l'inverse, ce qui était adapté à ta situation, c'était peut-être pas de le faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est de l'essai-erreur, je trouve, et que c'est un équilibre qui est délicat à trouver et qu'il n'y a pas de règle en disant « il faut faire ça ». Tu le résumes bien avec l'entraînement polarisé, par exemple.
Oui, puis il y a un élément après qui est on va dire, centré sur l'athlète en lui-même. C'est aussi… Enfin, pour moi, en fait, c'est toujours dur de parler de modèle d'entraînement parce que, en fait, pour moi, il y a un modèle qui va à chaque athlète. Qu'un athlète, ce qui compte, ça, c'est la vision que j'ai en tant qu'entraîneur, c'est comment tu gardes l'implication de l'athlète le plus longtemps possible. Et ça passe par des fois faire des choses qui ne seraient pas forcément ce que tu juges le plus pertinent pour la performance, mais tu te dis, moi, la personne que j'ai en face, vu comment elle ressent les choses, je vais lui faire plutôt du sport croisé parce que je sens que comme ça elle peut s'entraîner plus sans que ça lui pose de problème. Alors que si j'essaye de lui faire que de la course à pied, elle va me dire ouais t'es gentil mais faire deux fois de la course à pied 5 fois par semaine, moi j'aime pas ça, je préfère faire plus de vélo. Et donc il y a toujours une adaptation à avoir et ça renvoie à des, ça marche même pour le très haut niveau. Un athlète qui a performé récemment, Sylvain Cachard, qui a fait 14e des France de cross, qui est quand même ouais, remarquable pour quelqu'un dont ce n'est pas la spécialité. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un énorme… Il faut qu'il soit d'accord avec ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois… Il travaille un peu plus son entraînement lui-même qu'un athlète classique, mais il y a des fois… penserait qu'il faudrait peut-être faire un peu différemment de ce qu'il veut faire, mais il y a quand même une logique qui se tient dans ce qu'il veut faire, et je préfère amener des modifs à la marge en lui disant, bah voilà, sur telle ou telle fraction, fais un petit peu ci, ça, tu vois, pour un peu plus travailler sur des points un peu plus physiologiques. Mais par contre, on va pas casser la logique, parce que je sais que le fait qu'il adhère plus à ce qu'il a réfléchi, c'est hyper important mentalement pour lui, et que, à mon sens, ça sera toujours mieux que se dire on va faire quelque chose autre sur lequel il aura des doutes. Et ça, c'est quand même très très important que l'athlète, il adhère complètement à ce qu'il fait, quoi, le plus possible.
Ouais, parce que tu as un humain en face qui a sa propre logique interne, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je trouve que ce que je pourrais résumer, ce que tu dis, moi j'ai quand même cette position, c'est que quand tu es entraîneur, tu n'es pas là pour avoir raison. Tu es juste là pour accompagner l'athlète. Et si lui, il y a quelque chose qu'il sent un peu plus, de toute façon, s'il y met de l'intention et de la conviction, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle soit bénéfique que de faire quelque chose d'optimal sur le papier à laquelle il n'adhère pas, par exemple.
Complètement. Et puis, bon, il y a un moment donné, moi, j'aime bien dire simplement, tu vois, si déjà tu t'entraînes régulièrement avec un minimum de logique, proche de tes capacités maximales d'adaptation et de tolérance à la charge, tu seras quand même très, très proche de ton max. Après, on peut discuter, on peut venir faire des petites adaptations qui peut-être vont faire gagner le petit pourcentage qui, à un moment donné, peut faire la différence dans le haut niveau. Mais globalement, dans un sport d'endurance, si tu enquilles des heures avec un minimum de logique, ouais, quand même, au bout d'un moment, tu es quand même proche de ton niveau max. C'est peut-être pas optimal, mais. Et du coup, déjà, faire en sorte que l'athlète, pendant des années, il s'investisse, il répète des semaines, la constance et la patience, je pense que c'est les deux qualités principales dans l'entraînement. Si tu fais ça de manière régulière, avec un minimum de logique, tu vas avoir un bon niveau de performance par rapport à tes capacités. Après, bien sûr, on va toujours essayer de chercher le détail. Et c'est un peu, je dirais, le mal de notre époque, parce que forcément, tout ce qu'on peut lire souvent ou voir, c'est souvent pointu parce qu'on est sur des sujets spécifiques. Mais on finit par perdre l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler les gains marginaux et puis on oublie de faire la base. Mais il faut faire la base avant de vouloir aller chercher des gains marginaux, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Des fois, on voit des athlètes qui veulent aller gratter des trucs. Tu as envie de leur dire, non, mais là, tu t'entraînes 4 heures semaine, commence à t'entraîner 5, 6, 7, jusqu'à ce que ta vie te permet de faire. Et après, on viendra discuter s'il faut s'entraîner 5 pulses plus haut, 5 pulses plus basse, quoi.
Excuse-moi, je rigole, mais les gens que je coach vont rigoler en entendant ça. Enfin, je suis d'accord, justement. Et c'est aussi le problème des réseaux, justement, où tout le monde veut montrer, enfin, c'est mon avis, hein, sa légitimité avec des choses ultra pointues. Et en fait, finalement, comme tu dis, ça reste quelque chose de marginal. Et je trouve, pour avoir bossé 10 ans de haut niveau, qui est même aussi marginal dans le sport de haut niveau. C'est pas le cœur du problème, et pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'entraîner. C'est déjà de s'entraîner, en fait, pour commencer simplement.
Ouais, complètement. Moi, je le vois, j'ai une période d'arrêt. Là, j'ai vachement régressé, ce qui est normal. Et puis bah, là, je commence à me réentraîner de manière régulière. Ça ne fait pas si longtemps. Je dirais que ça doit faire 7-8 semaines. Bah, bien sûr, je suis loin de mon meilleur niveau, mais je commence quand même déjà à retrouver un niveau de forme qui est quand même très correct. Et je pense que la régularité dans l'entraînement, c'est la clé. Et c'est pour ça qu'il faut, alors il y a des gens qui aiment tout ce qui est les data, la science et tout, et pourquoi pas, si c'est un levier motivationnel chez eux, faut savoir l'utiliser, leur mettre des gadgets, un stride, un capteur de puissance, bon, l'AFC c'est assez classique. Si ça entraîne plus d'adhésion, tant mieux. Après, moi, ma vision par exemple de ces outils, c'est attention, ça reste des outils, quoi. Ça doit servir à la perception de l'effort, qui est importante surtout dans un sport comme le trail, avant de devenir des objets dont on est dépendant.
Non, mais je 100% raccord avec ça. Et maintenant, vu que tu es semi-débutant, on va faire ça comme ça, sans te faire offense, en tout cas, tu es en reprise. On va aller dans la deuxième partie de l'échange, en fait, qui est justement, on a beaucoup parlé des sportifs de haut niveau, des sportifs élites, ça c'est top. Et par contre, de ton côté, tu entraînes aussi des amateurs. Et j'avais une petite question quand on parlait de progressivité, justement, c'est sur les sorties longues. La fameuse sortie longue qui est aussi liée avec le volume, hein, de toute façon. Ou si je résumais bien depuis si je résume ce que tu as dit au début, quelqu'un qui est très entraîné, en fait, en gros, il peut se coltiner une grosse sortie longue d'un seul coup. J'exagère un petit peu, hein, mais pour schématiser. Et par contre, est-ce que le raisonnement est le même chez un sportif débutant, intermédiaire, de niveau avancé, voire élite, ou est-ce qu'il faut une progressivité, par exemple, en rajoutant un quart d'heure, 20 minutes, etc., de semaine en semaine sur la sortie longue? En gros, est-ce que c'est la même approche dans les deux cas?
Alors, je vais te faire une réponse qui va peut-être te paraître bizarre, mais finalement, en rapport de leur capacité, pour moi, les athlètes de haut niveau font moins des grosses sorties que les athlètes amateurs parce que ils ont beaucoup plus de fréquence. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple, mais par exemple, moi, ça m'arrive jamais de mettre ou très rarement des 8-10 heures à un athlète de haut niveau parce qu'en fait, il va faire 4 heures lundi, 3 heures le mardi, peut-être une sortie longue vélo si t'es pas que de la course à pied le mercredi, puis repartir sur un cycle où tu vois, t'enchaînes des jours avec beaucoup de, avec des sorties, avec des volumes assez importants dans la période spécifique. Alors que chez un athlète plus amateur, on fait un peu plus. Alors, bien sûr, avec de la progressivité, hein, parce qu'on est sûr que si l'athlète, il repart sa coupure, on va pas aller lui mettre un week-end choc 3 semaines après la reprise. Mais quand on a amené ça progressivement, et ça, je te rejoins un petit peu. Souvent, moi, je rajoute un quart d'heure sur la durée de la sortie longue que je garde même de manière générale quasiment toute l'année. C'est-à-dire que, tu vois, alors au début, ça va être 1 heure et demie, mais rapidement, une fois que la phase de reprise est passée, les 2 à 4 premières semaines, régulièrement, quasiment bah, essentiellement le week-end, parce que c'est là que les gens sont le plus dispo, bah voilà, il y a de la sortie entre 1h45 et 2h30 quasiment toute l'année. Alors des fois, c'est avec des combinaisons, c'est des combinaisons, j'en sais rien, par exemple, ski trail, selon où ils sont, ou vélo, VTT trail. Mais il y a quand même toujours cette base un peu d'endurance longue, quasiment chez moi toute l'année. Et après, le week-end choc, bah, je l'adapte un petit peu en fonction de ce que je pense. Et globalement, quand on fait le week-end choc, d'une certaine manière, on va capitaliser, on va dire, si on prend le volume hebdomadaire. On va le capitaliser, par exemple, sur 3 jours. Et puis, autour, ça sera léger, quoi. Ça va être une décharge avant d'aller faire le week-end choc. Le week-end choc, il va faire, j'en sais rien, peut-être 60 km ou 70 km sur le week-end qui peut correspondre au volume hebdomadaire que fait l'athlète. Et après, on récupère. Et je pense que quand on fait comme ça, vu que la surcharge, elle est quand même plutôt en aigu et qu'elle n'est pas trop chronique, je pense que les risques sont limités. Et moi, ça me paraît important parce que quand tu passes longtemps dehors, si tu l'as jamais fait, alors là, on dépasse le cadre physiologique, mais je pense que le cadre mental, passer du temps dehors, c'est quand même important quand tu vas faire des épreuves comme ça. Alors, sauf si tu as affaire à des gens qui ont un vécu autre, mais sinon, ouais, la première fois que moi, je suis allé courir 6 heures dans ma vie, ouais, c'est quand même quelque chose, quoi.
Oui, c'est quelque chose. Il faut avoir aussi penser à prendre à bouffer, à boire. Enfin, il y a plein
Ouais, bah, en
d'apprentissages
plus
à
de
faire aussi.
Ouais, tous ces tests-là qu'on doit faire. Alors après, bon, c'est vrai que quand on essaye d'entraîner, enfin moi, c'est ma vision, c'est on essaye d'entraîner peu de débutants dans le sens où bah, si tu fidélises bien tes athlètes, tu as un peu de rotation. Donc en fait, tu as peu de débutants puisque tu as des gens, bah, tu les prends, ils sont potentiellement débutants. Alors moi, personnellement, ça, c'est ma vision, mais je trouve que quand on s'entraîne moins de 3 fois par semaine, je suis pas complètement convaincu qu'on ait tout de suite besoin d'un coach. Au début, je pense qu'il faut juste courir un peu avec de la progressivité. Et donc, bon, souvent, moi, j'essaye d'avoir au moins 3, 4 séances semaine minimum avec les athlètes. Et donc, du coup, on n'est plus vraiment sur du complètement débutant. Et puis après, bah, au bout de quelques temps, j'essaye, tu vois, toujours progressivement d'inclure de manière formelle ou informelle, tu vois, toujours un petit peu plus de volume parce que je pense qu'à un moment donné, là on rentre plus dans la physiologie, mais quand même une grosse partie des adaptations, et qui plus est sur des sports d'endurance longue, et le trail, c'est vraiment un sport pour moi d'endurance longue, parce que ouais, même un trail court qui fait 20 km avec du dénivelé, bah pour la plupart des gens dans le peloton, c'est au moins 3 heures, quoi. Donc tu vois, ça viendra à l'idée de personne de dire que 3 heures, c'est court. Et ces adaptations-là, elles se développent quand même beaucoup à basse intensité. Ça, je pense que c'est quelque chose, moi, personnellement, j'ai eu du mal à l'intégrer en tant qu'athlète. Il m'a fallu longtemps. Mais la basse intensité, c'est vraiment la clé. Toi, j'ai trouvé une image, je vais la donner. Je pense qu'elle est. Tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, j'essaye de schématiser, tu vois, la performance comme le niveau de vie de quelqu'un, par exemple. Et ce niveau de vie, il est très corrélé à tes revenus mensuels, pour faire simple, que j'associe à la base d'endurance. Et quand tu veux augmenter de manière rapide ton niveau de vie, donc par exemple, je ne sais pas, si tu veux partir en vacances, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas taper dans ton épargne. Et ça marche bien, mais ton épargne, elle n'est pas infinie, donc ça marche à court terme. Si tu veux augmenter ton niveau de vie, donc ton niveau de performance de manière pérenne, bah, faut augmenter ton niveau de revenu mensuel, c'est-à-dire ta base d'endurance, quoi. Et je trouve que c'est une vision qui permet un peu plus de comprendre. Et alors bien sûr, c'est simpliste parce que ça ne fonctionne pas de manière aussi schématique, mais c'est, je trouve, une bonne manière de se représenter comment ça fonctionne quand même dans les sports d'endurance assez longs, quoi, en tout cas.
Ouais, alors déjà, moi, j'aime bien les métaphores et les images. Et généralement, plus c'est simpliste, c'est plus ça me parle. Donc, je trouve que c'est très bien résumé. Les gens pourront nous dire s'ils sont raccord avec ça, mais je trouve que c'est super bien résumé. Et justement, sur cette sortie longue, comme tu disais, chez des athlètes élites qui ont une consistance à l'entraînement qui est énorme, donc un volume d'entraînement hebdomadaire qui reste énorme, il y a moins le besoin. Et c'est vrai que chez des amateurs qui peuvent s'entraîner trois fois par semaine et une fois le week-end, si tu veux atteindre le volume suffisant, tu n'as quand même pas beaucoup d'autres choix que d'aller taper la sortie longue le week-end ou le bloc ou le week-end choc de temps en temps. C'est dur d'en faire l'économie, en tout cas, chez quelqu'un qui prépare une épreuve longue.
Bah, complètement. De toute manière, de toute façon, l'entraînement, dès qu'on parle plus d'athlètes de haut niveau, il est contraint par les obligations autres de la vie de l'athlète. Donc, en fait, toi, en tant qu'entraîneur, tu fais dans ce cadre qui est défini. Et moi, ça, c'est vraiment ma vision. J'estime que le coach, il est au service de l'athlète et pas le contraire. C'est pas à l'athlète de rentrer dans ce que le coach veut faire. C'est au coach de s'adapter. Alors après, de dire, c'est lui qui a la compétence et de dire, attention, là, la spécificité de l'activité fait qu'il faudrait être capable de faire ça, ça. C'est sûr que typiquement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si quelqu'un vient te voir et te dit, moi, je veux faire deux sorties semaine et je veux faire l'UTMB, bah, moi, je vais dire non, c'est pas possible. Je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont capables de le faire, mais ça m'intéresse pas et c'est pas la manière dont on prépare un UTMB de mon point de vue. Donc il y a un minimum de prérequis du côté de l'athlète, mais après c'est au coach de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'effectivement, par exemple, c'est là que le moins courir pour mieux courir peut avoir du sens en utilisant des choses pour peut-être augmenter la contrainte musculaire en travaillant avec de la pré-fatigue, ce genre de choses. Mais à un moment donné, pour développer la capacité à produire de l'énergie, qui est quand même, je pense, un déterminant majeur de la performance, il y a un moment donné, il faut faire des heures pour développer ces capacités-là. Je vois pas, à moins que tu aies des idées, on peut utiliser des stress environnementaux, ce genre de choses, mais au bout d'un moment, il y a pas non plus de raccourci, quoi. J'aime bien dire, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, quoi.
Non, j'ai aucune idée, je vais te dire pourquoi. Autant quelqu'un qui habite à Paris et qui veut préparer l'UTMB, ou j'ai Adrien qui faisait le GRP dans les Pyrénées, ça me botte, parce que il faut trouver d'autres solutions que quelqu'un qui habite en montagne. Mais finalement, en fait, quelqu'un qui veut préparer un trail long et qui n'est pas en mesure de se dire « je vais m'y coltiner entre 4-5 fois par semaine à l'entraînement », finalement, c'est qu'il n'est pas dans l'état d'esprit pour le faire, hein, de mon point de vue. Donc, par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, il y a de fortes chances que le projet n'aboutisse pas. Et tu auras beau utiliser tous les outils du monde et toutes les solutions. Comme tu le dis, c'est le coach qui est au service de l'athlète, mais c'est autour du sportif. Et si la motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque de l'athlète, elle n'y est pas, pour arriver à se dire, OK, j'ai ce projet-là, il faut que je fasse les choses en face pour que ça fonctionne. D'avoir le meilleur coach du monde ou le meilleur programme d'entraînement du monde, au bout de quelques mois, en fait, ça va splitter. C'est mon avis.
Complètement, complètement. Et je pense que là, le coach peut avoir un rôle, tu vois, en essayant de trouver des choses qui améliorent l'adhésion de l'athlète. Moi, je suis très, très dans la variété, tu vois, des séances d'entraînement. Je n'utilise pas trop de séances type, tu vois, en disant c'est une séance référence. Et c'est vrai que j'essaye vraiment, tu vois, quand je veux travailler une qualité de. Bon, quand c'est de l'endurance, c'est différent. Hein, une sortie longue, ça reste une sortie longue. Mais tu vois, de trouver des petites choses à chaque fois pour travailler une qualité, de faire varier les séances pour que ce soit le plus ludique possible. Alors bon, il y a des gens chez qui ils sont un peu plus cartésiens, ils aiment bien faire les mêmes séances pour pouvoir comparer leurs évolutions. Mais sinon, j'essaie vraiment d'avoir cette variété pour que les athlètes s'ennuient pas, que les athlètes aient pas, créent pas des, aussi des fois des blocages, par exemple sur des séances qui sont dures, te dire je l'ai déjà faite celle-ci, elle est super dure. Et tu vois, enfin je pense que tu l'observes, ça passe avec le temps en principe, mais tu vois cette peur un peu de la séance, quoi, des gens qui psychotent 3 jours avant quand ils voient la séance et qui du coup font que quand t'es comme ça, c'est dur d'enchaîner les semaines parce que tu crées beaucoup de stress en fait supplémentaire à juste le stress, oui, qui est réel quand tu fais des séances d'intensité, mais finalement on peut réussir à vivre ce stress qu'au moment où ton corps il te dit ah oui là effectivement je suis stressé vu ce que tu me fais faire, mais que tu vois tu te dises pas 2 jours avant voilà là cette séance je vais souffrir et donc là du coup créer des séances où les athlètes connaissent moins, c'est quand même vraiment intéressant de ce point de vue là
Ouais, ok. Alors j'ai pas exactement le même fonctionnement où je te rejoins, c'est que moi j'ai pas de séance test par exemple. Je fonctionne pas comme ça, mais par contre je peux avoir la même séance si on prend de haute intensité, hein, c'est souvent ça, plusieurs fois dans l'année. Et par contre, une fois tu vas la faire sur un profil qui est roulant, une fois tu vas la faire sur un profil qui est vallonné, une fois que tu as un profil qui est un peu plus montant ou descendant, et je trouve que c'est le Il y a la même finalité un petit peu derrière au niveau physio. Par contre, sur la capacité d'adaptation et sur la variété d'entraînement, c'est pas du tout les mêmes effets. Et je trouve que c'est un système qui fonctionne bien, par exemple.
Complètement. Je te rejoins.
Un truc tout bête, hein, tu fais un 5x5 au seuil, c'est vraiment un exemple. Hein. Tu le fais de manière différente. Tu le fais sous la fatigue, sur la fraîcheur, sur des variations de terrain. Et ben là, tu as déjà de quoi faire une sacrée logique de progression, en fait, sans aller chercher midi à 14h, entre autres.
Ouais, c'est clair. C'est clair, carrément.
Et puis, j'ai aussi une autre question, justement, toi qui as un peu tous les profils, et à la fois dans ton expérience d'athlète et aussi l'entraîneur, fondamentalement, quelle différence il y a dans l'entraînement entre quelqu'un qui prépare du trail court, du trail long et de l'ultra trail?
Moi, je dirais que il n'y a pas forcément des énormes différences entre le trail court et le trail long dans le sens jusqu'à 60-80 bornes. Moi, je pense vraiment qu'un athlète qui se prépare correctement, il va être relativement performant quand même, on va dire, entre 0 et 100 km. Ouais. Alors, ça varie d'un athlète à l'autre, ça dépend de comment tu t'entraînes. Je dirais que sur du trail court, on peut avoir des athlètes qui s'en sortent avec moins de volume et qui auront du coup du mal des fois à passer la durée, on va dire 1h30. Ça, je pense que, enfin moi, c'est mon analyse personnelle. Je pense que c'est pas mal. Moi, j'appelle ça un peu l'endurance métabolique, mais tu vois, c'est l'utilisation des substrats. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup sur les glucides et du coup, quand tu sais pas trop utiliser tes graisses, c'est quand même un peu compliqué d'aller faire des courses qui dépassent 4-5 heures parce qu'il faut forcément qu'il y ait une bonne partie de l'énergie qui soit produite via les graisses, même avec les ravitaux actuels qu'on connaît avec des glucides chargés, ça représente jamais qu'une partie des apports, surtout sur des athlètes de haut niveau. Après, par contre, je scindrais vraiment l'entraînement, l'ultra. Je pense qu'il y a vraiment ce qu'on disait au début, c'est de ces capacités biomécaniques à encaisser la distance qui doit vraiment être qui doit vraiment guider l'entraînement, c'est-à-dire, il faut que mon athlète soit capable de faire 160 km sans être trop ralenti, tu vois. Et si déjà il arrive à faire ça, je pense que ses capacités physiologiques de base, alors bien sûr, elles vont jouer, après elles vont faire la différence, et on le voit quand on observe les meilleurs mondiaux sur une course comme l'UTMB, ils sont tous rapides ou quasiment tous rapides sur des efforts courts, mais par contre on en voit qui ont des qualités qui sont pas du tout hors du commun sur des efforts courts et qui arrivent à s'en sortir sur ces longues distances parce qu'en fait ils ont vraiment la capacité. Je pense que l'exemple un peu peut-être le plus connu, même si c'est pas un top athlète, c'est quelqu'un comme Alex Boucher, qui est plus connu sous le nom de Casquette Verte. Moi, je pense que lui, sa capacité, c'est quand tu fais 200 bornes toutes les semaines, en fait, un ultra, c'est pas un problème de le terminer pour lui, quoi. Et en fait, quand déjà tu termines un ultra relativement normalement, sans avoir des grosses douleurs qui te freinent beaucoup, notamment dans les descentes, tu fais un résultat qui est honorable. Et ça, c'est vraiment pour moi la grosse différence entre les courses où on est vraiment sur la performance avec pas trop de risque de pas aller au bout et l'ultra. C'est vraiment les deux différences que je ferais. Après, c'est plus voilà, sur les séances que tu vas faire spécifiques, mais il y a pas forcément des différences majeures. Sur le trail long, il y a quand même cette notion de durabilité qu'il faut mettre en ligne de considération, cette capacité quand même à encaisser l'intensité spécifique et le fait de ne pas trop ralentir au fil du temps. Ce que tout le monde n'arrive pas à faire, mais si l'entraînement il est bien construit, on arrive à être toujours fort physiologiquement et durable.
Ouais, ok. Bah, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je trouve que plus l'effort s'allonge, plus il faut apprendre, parce que l'entraînement c'est aussi un apprentissage, à faire avec ses armes du jour, avec sa forme du jour et avec la gestion des temps forts et des temps faibles, par exemple.
Oui, complètement. Et puis, sur des courses longues, encore plus sur l'ultra, tu as vraiment deux types de courses, si on parle des coureurs élites. C'est que tu as ceux qui courent pour gagner. Donc, eux, quand même, ça part, même si ce n'est pas très rapide pour leurs allures, ça part quand même relativement vite. Puis après, tu as celui qui va plus chasser le top 10 et qui va beaucoup plus partir dans son pace réellement le sien, naturel, plutôt facile. Et puis, tu vois, s'assurer d'aller au bout en bon état. Alors que d'autres, bah, ça part, tu viens jouer la gagne, bah, tu suis, même si à un moment donné, l'allure, elle te paraît peut-être un petit peu rapide pour la durée de l'effort. Ça c'est clairement une tendance qu'on observe. Et c'est aussi, alors moi, j'ai plutôt eu, tu vois, deux phases dans ma carrière, même si j'ai jamais fait de l'ultra, mais cette phase où je courais plutôt par l'arrière et je venais faire des places d'honneur, parce qu'en fait, j'avais juste pas le niveau pour partir devant. Puis une deuxième partie où j'ai eu plus ce niveau sur des courses, on va dire, de bon niveau national ou même de niveau international, où bah, je partais devant et puis, j'ai essayé de tenir. Alors bon, moi, j'ai pas souvent gagné, mais j'essayais de rester sur le podium. Mais ça, c'est très dépendant quand même de tes capacités. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que dans une course, avant de vouloir battre les autres, il faut déjà réussir sa propre course. Ça, c'est quand même souvent une chose que chez le jeune athlète, parfois, il fait pas, c'est que il court par rapport aux autres, mais si tu réussis pas ta course, tu battras pas les autres. Et donc, faut toujours être centré sur soi avant d'être centré sur les autres.
C'est vrai. Et par exemple, il y en a beaucoup qui sont moqués, en guillemets, de Wamsley quand il partait trop vite les années d'avant, ou de Périlla, par exemple, cette année, d'un camp à l'UTMB. Mais en fait, ce qu'il faut t'en parler au début, c'est du long terme. Et peut-être que, justement, cet apprentissage, en tout cas chez les élites, c'est un chemin à long terme pour gagner l'UTMB un jour. Par exemple, Wamsley, c'était sûrement ça. Et peut-être que ça passait par le fait que les UTMB étaient aussi des entraînements pour apprendre à connaître sa propre limite par rapport à soi-même. Alors qu'à l'inverse, un Pommeret est beaucoup plus dans la gestion. Et les deux sont louables et les deux font avec leur qualité, par exemple.
Oui, puis je pense qu'un Ludo Pommeret, par exemple, il sait très bien que s'il part dans le groupe de tête, c'est pas lui qui est le plus fort et il va pas tenir, tu vois. Il va subir le rythme du début et ça ne va pas optimiser sa performance. Quelqu'un comme Jim, pour moi, il était complètement légitime vu son record à la Western. Après, il lui manquait, je pense, on ne sait pas exactement, mais je pense qu'il y avait quand même une part nutritionnelle. Et puis, il a un peu du mal aussi au lever du jour. Cette année, c'était encore le cas. Et puis, quand Germain est revenu, ça l'a un peu piqué. Il s'est réveillé, puis il a atomisé la fin de course. Pour Duncan, je suis un peu plus mesuré. Je pense que Duncan, il est arrivé en mesurant pas forcément quand même le niveau qu'il y a dans le trail aujourd'hui. Lui, il vient de la route, il a un très bon niveau sur marathon. Faut se rendre compte que, par exemple, c'est pas le plus rapide pour moi sur marathon au départ de l'UTMB. Un Tom Evans, par exemple, qui a fait 1h03 au semi, à mon avis, il est capable de faire aussi bien. Un Jim, il a dû faire 2:15 sur un parcours qui était quand même dur. Pareil, 1h04 au semi, c'est pareil, c'est des coureurs qui courent à plat, au moins comme lui, et qui sont spécialistes de la discipline. Donc en fait, se dire je vais partir avec eux, ça me paraissait quand même un petit peu ambitieux, tu vois.
Oui, c'est vrai aussi, mais ça peut aussi faire partie de l'apprentissage. C'est là que je voulais en venir. Et,
oui, complètement.
Dans la tête des gens, du plan qu'il a en tête aussi.
C'est sûr que ce qui est dur, par exemple, moi qui ai jamais fait d'ultra, c'est que tu me mets au départ de l'UTMB, c'est vrai que je serais incapable de te dire c'est quoi la bonne allure, quoi. Ouais. Parce que faut que ce soit facile, mais c'est... Ouais, comment tu sais quelle est l'allure facile pour que dans 20 heures, tu sois encore capable d'avancer, tu vois. Ça, c'est quand même pas... Alors, tu sais que tu vas ralentir, donc il faut forcément partir au-delà de ta vitesse moyenne. On va parler d'une vitesse ajustée à la pente, par exemple. Mais j'en sais rien si on tient, j'ai pas trop les valeurs en tête, mais je dirais peut-être ça doit être du 11 km/h à peu près ramené à plat sur un UTMB. Ok, à combien il faut partir? Est-ce que si je pars à 13, c'est trop rapide? Est-ce que si je pars à 12 et demi, à 12, c'est un peu lent? Tu vois, ça, je pense que ça passe effectivement que par l'apprentissage et puis aussi par le fait de construire des capacités qui font qu'au bout d'un moment, tu peux aussi ne pas te poser de questions en te mettant dans le groupe de tête et puis tu suis quoi. Ça, c'est quand même aussi quelque chose, moi, j'ai senti dans ma carrière, c'est plus facile de gérer des courses quand tu commences à être l'un des meilleurs parce qu'en fait, bah, tu te mets dans le groupe de tête et puis t'es pas en train de te poser de questions, de te dire est-ce qu'il faudrait que je me laisse décrocher parce que ça va trop vite, quoi. Tu suis et même si potentiellement tu pourras aller plus vite, il y a un moment donné, si tu as confiance dans tes qualités, tu te dis moi, le rythme me convient et puis le moment où j'ai décidé de faire mon effort, je ferai mon effort, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Et comme pour résumer, c'est un apprentissage parce qu'on court surtout face à soi-même. Donc, il faut aussi trouver ce qui nous convient à nous.
Ouais, d'où la notion de spécificité et le fait que je sois assez favorable au fait de s'entraîner pas mal, c'est qu'à un moment donné, oui, on peut utiliser les courses, mais l'entraînement, on y passe beaucoup plus de temps et donc il faut répéter ses allures. Et puis, ouais, moi j'aime bien dire, prendre cet exemple, je pense que quelqu'un, une course que j'ai faite plein de fois, c'est le Grand Trail des Templiers. Je
Ouais.
pense qu'honnêtement, si on pouvait faire cet exercice-là, c'est pas possible, c'est dommage, mais mettre quelqu'un dans le corps de, enfin, le mien ou quelqu'un ou de Sepp Speller qui a fait plein de fois la course, à certains moments de la course, je pense même avec les capacités physiques, si tu mets quelqu'un qui a zéro expérience mentale de ça, que tu lui mets dans le corps, il serait pas capable d'aller aussi vite parce qu'en fait, il y a des moments donnés, il y a que l'expérience, le fait de l'avoir vécu, le fait d'être capable de te convaincre que si, je l'ai déjà fait deux, trois, quatre, cinq fois, ça tient. Bah, c'est tellement dur qu'à un moment donné, il y a que la tête qui te dit si c'est possible quoi. Le corps, il te dit mon gars, là, faut ralentir, ça va pas tenir quoi. Enfin, moi, j'ai en tête une bataille qu'on avait eue avec Seth Speller en 2018. J'ai passé les trois quarts de ma course avec le corps qui disait ralenti et la tête qui disait non, on est prêt, ça va tenir quoi. Tu vois, ce duel un petit peu au sein de son propre organisme. Entre un côté, tu as des ressentis de te dire, ça, c'est des ressentis de course de 2h30, 3h, ça va jamais tenir 6h30, 7h. Et l'autre, la tête qui dit, si, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir, on est prêt mentalement, il y a qu'à le faire, tu as toujours tenu, ça va tenir cette année aussi, quoi.
Ouais, mais c'est super intéressant cet aspect mental, même si des fois on lui prête trop de vertus, parce que le mental, en fait, se travaille aussi à l'entraînement et justement et comment dire le jour de la course, en fait, ce que tu vas rechercher dans tes ressources mentales, c'est l'expérience que tu as aussi vécue à l'entraînement.
Bah, moi, je dis souvent que le meilleur des entraînements sur le plan mental, c'est l'entraînement physiologique. Et il y a aussi, pour ça, je pense que des fois, les gens ne comprennent pas certaines séances parce qu'ils n'ont pas cette vision-là. C'est qu'il y a des séances, c'est un peu de physio et c'est beaucoup de mental. C'est-à-dire que oui, effectivement, est-ce que c'est utile? J'en sais rien, tu vois, tu fais un 5 fois 8 minutes seuil dans une bosse et puis tu vas courir 30 minutes sur fatigue. Est-ce que ça développe vraiment des choses sur le plan physiologique? Ouais, on peut en débattre. Par contre, apprendre à courir pendant une demi-heure, j'en sais rien, par exemple, pour des bons coureurs à 15 à l'heure à plat, 15-16 à l'heure, ben, c'est juste apprendre à courir à 15-16 à l'heure en étant défoncé dès le début de la fraction, tu vois. Et ça, c'est ce qui fait que le jour de la course, tu te dis, ah, mais moi, courir à 15-16 à l'heure quand je suis défoncé, je sais faire, j'ai déjà fait à l'entraînement, je vais y arriver, tu vois. La première fois que j'ai fait ce genre de séance d'entraînement, que je voyais la séance à faire, je me dis, mais comment c'est possible de faire ça, tu vois. Et le fait de le répéter, ça te met une confiance qui. Ouais, si. Enfin, moi, je pense que quand tu n'as jamais vécu quelque chose, il n'y a pas bien de chance que tu saches le faire le jour où ça t'arrive, quoi.
Oh oui.
Ou en tout cas, pas de manière optimale, quoi.
Je suis 100% raccord avec ça. Et bon, on arrive en fin d'épisode qui aura évidemment, je m'excuse vers tout le monde, mais c'était passionnant, duré plus de 30 minutes. Ça devient une constante, mais pour parler de trail long, on était obligé. Quel résumé ou quel conseil tu pourrais faire par rapport justement aux gens dans la pratique de leur sport et notamment dans le fait de trouver le volume optimal?
Bah, moi, je dirais qu'il faut bien qu'ils interrogent d'abord leur motivation, que ce soit des motivations assez fortes pour pratiquer longtemps, on l'a évoqué, et que du coup, ils arrivent à organiser leur vie pour essayer de faire un volume qui est suffisant pour se faire plaisir et trouver tu vois, cette vitesse de croisière. Et moi, je dirais qu'il faut avoir cette vision long terme dans le sens où peut-être que faire 8 heures semaine, de manière constante, ça te coûte pas mentalement, ça te demande pas de t'ultra organiser, c'est peut-être mieux que de vouloir faire 10 heures. C'est la course et chaque semaine tu diras comment je vais caler cet entraînement là. Moi je dirais qu'il y a vraiment cette constante de que ce soit avant tout un plaisir, que ça soit pas une contrainte d'aller faire du sport, parce que on fait avant tout du sport pour être en pleine santé, pour se détendre. Donc trouver cet équilibre en fonction de sa vie, et du coup est variable pour chaque individu, est évolutif aussi, hein. Je pense notamment à ceux qui ont des enfants, ça peut évoluer au cours de la vie, mais vraiment de trouver cette manière de faire du sport sans que ça coûte trop mentalement, et que plutôt au contraire ça soit quelque chose qui te permette de te relaxer si le reste de ta vie est un peu stressante.
Ok. Et une dernière question, parce que je l'ai noté quand on discutait et j'ai oublié de te la poser, justement, chez des sportifs entraînés, mais ça permettra de bien conclure, hein, en tout cas qui ont une consistance souvent, enfin une consistance et de la régularité, spontanément et par expérience, sur une sortie longue, entre guillemets, j'ai l'impression qu'en fait, qu'elle fasse... Si après 2 heures et si elle fait que 1h50 ou finalement elle fait 2h20 parce que les conditions du jour, elle était, c'était propice à ça, j'ai l'impression que ça ne change pas la face du monde. Est-ce que tu es raccord avec ça ou toi c'est plutôt bien cadré sur la durée?
Non, complètement. En fait, on va chercher. Moi, tu vois, des fois, je mets même plus forcément des durées maintenant. Des fois, je mets un dénivelé objectif. Et puis, en fait, l'athlète, selon le profil, il fait plus ou moins long. Mais une fois que ce qu'on disait, une fois que tu es adapté, on n'est pas à 20 minutes près. Et puis, bon, ça reste. Je dirais que surtout, ce qu'il faut faire, c'est que quand on fait de la sortie longue, moi, j'appelle soit ça de la rando-course, faut rester en endurance basse. Et ça, c'est peut-être. On conclura là-dessus, mais moi je pense que toutes les problématiques de surentraînement, entre guillemets, j'aime même plutôt utiliser le terme de surcharge, c'est rarement une problématique de plan d'entraînement, c'est beaucoup plus une problématique de comment tu réalises les entraînements qui sont préconisés. Parce que si tu fais 5 heures en Z3, c'est un peu extrême, mais je prends un exemple extrême, c'est pas pareil que si tu fais 5 heures de Z1, quoi, sur un modèle à 5 zones. Et ça, je pense que souvent, quand il y a des surcharges, il y a le fait d'aller un peu trop vite, et l'autre élément, on conclura là-dessus, c'est sur les apports énergétiques. Ça, moi, je pense qu'il y a plein de sportifs d'endurance qui ne s'alimentent pas assez à l'effort, ne s'alimentent pas assez de manière générale, ont des déficits chroniques, et que la fatigue, elle est beaucoup, beaucoup liée à ces problématiques-là.
Oh oui, je suis d'accord. Et justement, sur les sorties longues, au-delà de l'entraînement, si tu n'es pas en train de piocher au fin fond de tes réserves à chaque sortie longue, ça t'évite aussi de générer de la fatigue chronique en fait et résiduelle.
Complètement, complètement. La sortie longue, j'aime bien une maxime de Thomas Lorblanchet là-dessus, c'est que quand tu fais une sortie d'endurance, tu peux jamais aller trop lentement, mais par contre, tu peux aller trop vite. Et moi, ça a été un peu mon problème durant une partie de ma carrière. Mais c'est vrai qu'il faut accepter d'aller lentement, à la limite de mettre son cardio et de se mettre une limite vers le haut. Et quand il faut marcher, s'il faut marcher dans une bosse, et on marche. Et de se dire qu'il y a plein d'adaptations qui se font à basse intensité et qu'elles ne se feront pas mieux si tu vas plus vite, quoi. Voire moins bien.
Thomas, le roi de la punchline aussi, j'aime beaucoup. Et j'espère que les gens que je coach auront écouté cet épisode et surtout la fin. Ça donne du grain à moudre à mon moulin.
Ah, complètement. Non, mais vraiment, j'insiste, tu vois, sur ce côté énergétique, parce que chez ceux qui s'entraînent beaucoup, alors c'est pas forcément tous les gens, mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, les gens mangent d'une certaine manière et mangent presque tout le temps pareil sans adapter à leur charge d'entraînement. Et que ça répéter, quand tu le fais une journée, c'est pas un problème. Quand c'est répété de manière chronique, petit à petit, il y a une mauvaise réponse au stimuli d'entraînement. Et souvent, la réponse à ça, c'est « Ah, je suis pas en forme, donc je m'entraîne plus ». Et cercle vicieux qui, chez les trop bons élèves, finit par conduire à des situations où parfois, il faut des mois pour en sortir, quoi.
Ok. Ce sont de sages paroles. Je le dis souvent en fin d'épisode vu que je reçois des gens de qualité, mais encore de sages paroles. Nico, écoute, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment un plaisir de discuter. Moi, j'ai pas vu le temps passer, en tout cas.
Ouais, j'espère que ce sera pareil pour ceux qui nous écoutent. Et merci à toi, Nico. C'était super, super intéressant.
Ouais, y a pas de raison. Allez, au revoir à tout le monde.
Salut à tous.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.